Bonsoir. Dans le cadre de notre série d'émissions consacrée à des entretiens avec des personnes impliquées dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, nous vous proposons ce soir la première d'une série de deux émissions consacrées aux résistants et déportés Maurice Luya. Nous avions rencontré Maurice Luya le 12 juin 2009 pour réaliser l'entretien objet de ces émissions. Depuis, Maurice Luya est décédé récemment, le 14 mai 2014, et c'est pour lui rendre hommage que nous vous proposons la rediffusion des deux émissions réalisées en 2009 à partir de cet entretien. Maurice Luya, jeune résistant grenoblois, sera rapidement arrêté, emprisonné longuement et ensuite déporté à Buchenwald. C'est le récit de sa vie et de cette terrible expérience que nous vous proposons d'entendre. Notre première émission sera consacrée à la période de sa jeunesse jusqu'à son incarcération au camp de quarantaine à Buchenwald. Les illustrations musicales qui ponctuent ces propos et que nous vous préciserons en fin d'émission sont quasi exclusivement des extraits du Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen. Nous vous proposons d'écouter Maurice Luya.
Je suis né le 19 juin 1924. À Mancy-de-Clermont, c'est un petit pays dans l'Isère, au Puy du Vercors. Mon père, après nous avons vécu quelques temps à Mancy-de-Clermont, et mon père, disons, est rentré dans la police municipale à Grenoble. Donc nous sommes descendus à Grenoble, et donc j'ai vécu toute ma jeunesse à Grenoble. Alors bon, j'étais un élève moyen, enfin pas trop mal, et mes parents ont décidé de me faire suivre une école professionnelle, une grande école professionnelle qui existe à Grenoble, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle l'école Vauquençon. Alors donc, après mon certificat d'études que j'ai passé à 12 ans, je suis rentré à l'école Vauquençon pour apprendre un métier, hein, d'une part, et d'autre part, mon intention, si vous voulez, à cette époque-là, c'était de faire mes 4 ans d'école Vauquençon, puisque c'était sur 4 ans, une année de préparatoire et 3 années de normale, et au bout, après avoir passé mes examens, faire préparer une école militaire. Bon, c'était mon envie, si vous voulez, c'était de faire aviateur. C'est très noble, si vous voulez. Enfin, bon, c'était dans...
La formation que vous suiviez à Vauquençon, c'était quoi? Quelle branche?
Branche mécanique. Profession, j'avais choisi tourneur. Mais avec, disons, l'intention, de faire une quatrième spéciale pour préparer les écoles, disons, les écoles militaires. Et puis, bon, on est arrivé en 1939, comme ça, et, début 39. J'allais passer mes examens, disons, au mois de juin 39, et la direction de l'école Vauquençon a décidé, parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre dans les usines, de sélectionner parmi les 4 classes de 3e année les meilleurs en atelier, leur faire passer les examens avant les autres pour entrer dans la production. Donc j'ai passé mes examens en mars 1939, et j'ai été travailler. Bon,
travaillé dans quelle entreprise à ce moment-là?
Alors,
petite boîte.
Oui, une petite boîte. Une boîte qui n'existe plus d'ailleurs actuellement, qui s'appelle Raymond Bouton. Mm-hmm. Bon, c'est une boîte qui est à Grenoble dans le Courbéria. Bon, puis après la défaite est arrivée, donc l'école militaire c'était fini, terminé, hein, puisque pendant une période, toutes les écoles étaient fermées. Donc j'ai continué à travailler. Et en 41, donc c'est passé normalement. J'étais jeune, je jouais au football à cette époque-là, j'avais pas de problème particulier. J'étais fils unique, donc j'étais particulièrement choyé. Alors, il faudrait que mon père, c'est un ancien combattant de la guerre de 14-18, qui était très République, nation, machin, etc. Ma mère, très catho. J'allais au patronage, enfin, etc. Bien. Donc, une enfance jusqu'à plus normale.
Thank you.
42, t'es arrivé à un certain nombre d'événements qui ont, disons, fait en définitive le futur de ma vie. Premièrement, j'ai changé d'entreprise. Je suis allé travailler dans une autre entreprise grenobloise, où là, j'ai eu des contacts différents de ce que j'avais dans l'ancienne entreprise. C'est-à-dire, j'ai connu des gens qui avaient des activités syndicales, même à cette époque-là, etc. Donc, si vous voulez, qui m'ont un petit peu motivé différemment. Bien. Ça, c'est la première chose. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à cette époque, à Grenoble, il y avait particulièrement une activité assez bouillonnante contre l'occupation, contre tout ça, et il y avait des organisations de résistance qui vivaient. Et nous, les jeunes, parce que j'étais jeune à cette époque-là, on participait volontiers, mais pas par, disons, pas tellement, il faut dire les choses comme elles sont, pas tellement par désir nationaliste, ou etc., mais plutôt par envie de se battre, parce qu'on était jeunes, etc. On participait volontiers à des manifestations patriotiques qui avaient lieu, tu sais, 14 juillet, 11 novembre, les organisations de résistance appelaient les gens à manifester, donc on y allait, tu sais, bon.
Elles n'étaient pas spécialement réprimées, ces manifestations-là.
Bon, il y avait tant de temps les CRS de l'époque qui nous poursuivaient un peu, mais enfin, bon, c'était un peu du folklore, hein, c'était pas encore la...
C'était avant le 11 novembre, de toute
ouais.
façon.
Disons, ce qu'il faut dire, c'est qu'à cette époque, en 1942, il n'y avait pas d'Allemands à Grenoble. C'est les Italiens qui étaient l'armée d'occupation. Donc les Italiens, ils s'en foutaient royalement. Hein. Donc, si vous voulez, ça se passait encore assez bon. Bien. Alors donc, j'étais un peu dans cette mouvement, sans appartenir, si vous voulez, mais j'étais un peu comme ça. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'ai changé d'entreprise. Dans cette entreprise, j'ai connu un jeune homme, on peut dire, qui était plus âgé que moi, puisque en 42, j'avais 18 ans, hein, qui était plus âgé que moi, et qui était un ancien marin. On a sympathisé parce que nous étions du même pays, à Massy-le-Clermont. Lui, il était de Grasse-en-Vercors, donc juste à côté. On a sympathisé, et lui, il appartenait à Libération. En Libération, surtout. Et on a décidé, tous les deux, en automne 42, de partir en Angleterre, de rejoindre, disons, De Gaulle. Bon. Alors on a commencé à chercher la filière, parce que c'était pas commun, pour trouver la filière. On n'avait pas d'acquaintance spéciale. Finalement, on trouve la filière, on prépare les papiers, tout ça, on était tous les deux
venus. Trouver la filière, concrètement, c'était quoi
c'était un gars qu'on a connu comme ça, qui se baladait dans Grenoble, d'ailleurs, c'est vachement bizarre, qui se baladait dans Grenoble avec une cravate, avec une croix de Lorraine dessus, je m'en rappelle, hein, et qui avait un grand bagou, etc. Puis bon, c'est lui qui nous a, disons, introduit dans ce machin. Et donc, on a préparé les papiers pour partir en Angleterre. On devait partir en Angleterre. Mais bon, il fallait que j'annonce à mes parents que je partais en Angleterre. J'étais fils unique. Bon, quand j'ai annoncé ça à maman, hein, c'était les grandes eaux, les grands pleurs, etc. Bon, tu es fou. Enfin, elle m'a tellement fait un peu chantage à l'affection que je dis, bon, ben, je pars pas. Et mon copain, il n'est pas parti non plus parce que lui, il avait une fiancée et quand il a annoncé à sa fiancée qu'il partait en Angleterre, elle a dit, j'attends un enfant de toi. Alors il a dit, bon, ben, je pars pas. Donc, il y en a d'autres qui sont partis, qui sont bien arrivés. Bon, c'est la filière classique, on passait en Espagne, on était arrêté par la garde civile, on allait au camp de Miranda de l'Ebro, et puis bon, les gens venaient nous chercher, bon, parce qu'on était sujet canadien ou sujet anglais, etc. Bien, enfin bref.
Thank you.
Donc, 42, voilà. Donc, et puis, troisième événement plutôt qui a motivé un petit peu les choses, j'ai arrêté le football et je joue au rugby. Bon, je rentre dans l'équipe junior du Football Club de Grenoble, qui existe encore actuellement. Et là, bon, je prends des contacts, j'avais des copains, bon, on était une équipe de rugby, 15 joueurs, plus des remplaçants, etc. Début 43, c'était au mois de janvier, la vie a voulu que mes parents habitaient dans un petit immeuble, il y avait deux étages, ils habitaient au deuxième étage, et au premier étage habitait un gars avec sa famille, que je connaissais bien parce que on était voisins, et à ce moment-là, les voisins, on entretenait quand même plus de relations que maintenant. Donc, je le rencontrais, on discutait, etc., etc. Ce gars-là, il avait caractéristique, c'est qu'il était hongrois. C'était pas un français, c'était un hongrois. Il était coiffeur. Et, ce que j'ai appris plus tard, il était communiste. Bon, alors, ce gars-là, on discute, et puis un jour, il me dit, voilà, Maurice, il y a longtemps que je parle avec toi, je connais un peu ce que tu penses, etc. Est-ce que tu veux rentrer dans la résistance? Alors, je dis, ben, faut voir. Dans quelle organisation? Il m'a dit, ben, les francs-tireurs et partisans français. Bon, alors, comme j'avais des contacts plus ou moins... Je savais ce que c'était que le Front et le Parti en français. Je savais que c'était une organisation qui était bâtie à la suite du Parti communiste, tout ça. Bon, ça me gênait pas tellement. Moi, je m'en foutais. J'avais pas d'idée préconçue là-dessus. Alors, j'ai dit, bon, ben, d'accord. Alors, il me dit, ben voilà, tu vas aller à tel endroit, tel jour, tu vas rencontrer un gars que tu connais d'ailleurs, qui te connaît, et puis vous allez discuter ensemble. Alors, effectivement, je vais à tel endroit, vers le bord du Drac, là. Je vois un gars que je connaissais qui était dans mon quartier aussi. C'était le quartier des Eaux Claires à Grenoble, dans mon quartier. Et bon, on discute, et bon, on parle, etc. Bon, il m'explique un certain nombre de choses. Et puis, il me dit, bon, ben voilà, je vais te confier à un éducateur, une espèce d'éducateur. Alors, il me dit, voilà, tu vas aller à tel jour, telle heure, à tel endroit, tu trouveras un gars comme ça, et il te contactera, tu discuteras avec lui. Et vous irez ensemble. Bon. Et je vois un grand gaillard qui me parle avec un accent un petit peu particulier. Je dis, non, mais qu'est-ce que c'est ce gars-là? J'ai su après, mais bien après, j'ai su que c'était un Allemand qui avait fait les brigades internationales et qui était instructeur des frontières de France. Alors il me dit, bon, on parle, et puis il me dit, tu viens avec moi, on va faire un sabotage, ensemble.
Oui, tout de suite.
Sinon, c'est cher. Alors, après, bien après, si vous voulez, j'ai réfléchi à tout ça. Mais bon, ce jour-là, je pars avec lui. Là, et, bon, il fracture une porte d'un magasin à Grenoble. Il rentre dans le magasin, et il avait un espèce de paquet, il met le paquet, il dit, c'est une bombe, on va la faire exploser, c'est un collaborateur, etc., etc. Bon, il règle son machin, là, et puis on s'en va. La bombe n'explose pas. Alors, je me suis posé des questions, mais j'ai dit, bon, ben, c'est pas de chance, quoi. Hein. Bon, après, si vous voulez, j'ai fait des réflexions, mais enfin, bon, pour l'instant, donc, alors, il me dit, bon, ben, écoute, voilà, tu veux, tel jour, à telle heure, tel endroit, etc., tu trouveras un autre gars. Bon, puis là, ils m'ont fait connaître un gars qui est devenu mon responsable dans la résistance. Qui avait un nom de guerre que je connaissais un nom de guerre, mais son vrai nom, je le connais pas. Mais c'était un jeune qui avait 22, 23 ans, et qui s'est présenté, Chabeuil. Bon, d'accord. Alors il me dit, bon, ben voilà, on te confie une mission, on sait que tu joues au rugby, tu connais des gars, t'es jeune, tu connais pas beaucoup de jeunes dans ton quartier, dans les quartiers environnants. On te confie une mission, il faut que tu crées une organisation qui s'appellera le Fonds Patriotique de la Jeunesse. Alors, c'était donc en début 43, Fonds Patriotique de la Jeunesse, et qui on te confiera des missions. Ok, alors, bon, moi je prends mon bâton de pèlerin, puis je commence à avoir deux, trois potes que j'avais dans le quartier. Puis je leur explique tout ça, bon, les gars, ils sont d'accord. Enfin, finalement, j'arrive à constituer un groupe, avec les gens du rugby aussi. J'arrive à constituer un groupe, on était 17 jeunes. Mais on était entre 16 et 19 ans. Puis là, j'avais 19 ans. Et puis, bon, on distribuait des tracts, on faisait des inscriptions sur les murs, etc. Puis un jour, le gars, il me dit, bon, écoute, tout ça, c'est bien beau, mais il faut aller un petit peu plus loin quand même. Bon, il y a une entreprise à Grenoble qui travaille pour les Allemands, il faut faire sauter son transformateur. Alors, tel jour à telle heure, on te donnera le matériel, etc. Alors, bon, on a fait le boulot.
À combien ? Oh. 17, non ?
Non, on était, parce que là, c'est pareil, j'avais 17 gars, mais il n'y avait que quelques gars qui étaient là, disponibles, etc. Bon, je prenais parmi les gars disponibles, mais c'est pour ça que c'était dommage, parce qu'on n'a pas eu vraiment d'instructions, et on faisait ça un petit peu à la va-vite. Mmh. Les mesures de sécurité, on s'en foutait. Donc, d'ailleurs, ça a été notre malheur. Bon, enfin, bon, on fait ça, tout ça. Et puis, ensuite, arrive...
Transformateur, vous l'avez fait sauter?
Oui, oui, fait sauter. Ça. Bon, pas de problème. Lui, il est parti en poussière.
Ça, c'était chez qui? Quelle boîte?
Mélangerin.
C'est partout, là-bas.
Bon, mais bon, le problème, c'est qu'en définitive, ça a arrêté l'usine 15 jours, quoi, puis on s'est reparti.
Mais la première bombe, vous pensez que c'était un test ou vraiment c'est un accident?
Non, la première bombe, à mon avis, maintenant, avec l'ocul, c'était un test. Hein. Parce que le gars, il est rentré, quand je repense après, il est rentré trop facilement dans ce machin, et normalement, avec l'expérience qu'il avait, il devait pas manquer son truc, hein. Donc c'était pour me tester, hein, c'était pour me tester pour voir les réactions que j'avais, etc., hein, ça, j'en suis à peu près persuadé, hein. Bon. Bien, enfin, bref. Alors on continue, et puis, à Grenoble, ça se faisait bien à cette époque-là. Maintenant, ils ont baptisé d'un nouveau nom. Ils appellent ça des kermesses. Hein. Mais bon, à cette époque-là, les organisations de résistance décidaient que tel jour à telle heure, il va y avoir un certain nombre d'actions, de fait. Alors donc, le 23 août 1943, mon responsable me dit, voilà, tu mobilises le maximum de tes gens et vous vous trouvez à telle heure, à tel endroit. C'est sur les quais de l'Isère. Vous allez passer deux par deux dans un endroit comme ça. Il y a un gars qui vous donnera une bombe et une adresse. C'est en général des collaborateurs. Mission, c'est de faire sauter. C'est des petites bombes, hein. C'est pas des grosses explosions, c'est des petites bombes. Ça fait sauter la porte de l'appartement, un truc comme ça. Bon. Je mobilise. On n'était pas nombreux parce que les gens travaillaient, ils allaient à l'école, etc. Mais enfin, on était, je crois, 8. Donc, on passe par groupe de 2. Là, il y a 2 gars qui passent. 2 gars qui jouent au rugby avec moi, qui passent, et qui partent avec leur paquet. Alors, le gars, il avait de la bombe dans sa veste, il avait une veste en cuir, il avait sa bombe, et avec son vélo à la main, et il part pour faire son boulot. Et à ce moment-là, ils se font arrêter par la police. Alors, est-ce qu'ils avaient été mouchardés? On n'a jamais su bien le pourquoi de la chose, mais bon, ils se font arrêter. Bon, leur policier tombe dessus, crac, bon. Des policiers normaux, hein, des Français normaux. Hein. Bon, et les amène au commissariat. Bon, moi j'avais mobilisé quand même quelques sentinelles pour regarder ce qui se passait. Il y a un gars qui vient me prévenir, il me dit, voilà, et un tel a été arrêté. Alors, on s'appelait par nos noms. Hein. Ouais. On avait des noms de guerre, mais ça servait à rien du tout. Hein. Bon, alors, il y a, Gaston et puis Jean qui ont été arrêtés. Bien. Alors moi, je dis, bah, tant pis, on continue, hein. On fait ce qu'on a à faire. Hein. Alors moi, j'étais avec un autre gars, et on part avec notre bombe. Et puis, au détour de Noé, je vois un gars qui était contre une palissade, qui regardait. Quand on passe, il nous file. Je dis, comme ils avaient été arrêtés, j'avais un peu la puce à l'oreille. Je dis au copain, je dis, tiens, on est filé. Alors, bon, on va essayer de le semer. Alors, on marche un peu plus vite, on était jeunes, on était sportifs, on marche un peu plus vite, et au détour d'une rue, paf, on se met à courir, on court pendant 20 mètres, on traverse une autre rue, etc., enfin, on passe 2-3 rues, et le gars nous avait perdus. Donc, on traverse le pont de l'Isère, et je dis, bon, ben, c'est cuit, il y a un problème, c'est cuit, la bombe à la flotte dans l'Isère. Alors on descend le bord, on jette la bombe dans les airs et on s'en va. Et 2 jours après, j'étais arrêté.
Ah oui?
2 jours après, j'étais arrêté. Alors pourquoi? J'étais arrêté parce que là aussi, conditions de sécurité n'avaient pas été remplies. Le copain, si vous voulez, un des copains qui avait été arrêté, on avait dit, attention, pas de papier compromettant sur soi. Et lui, il avait oublié que dans sa carte d'identité, il avait une adresse d'un jeune qu'on était en train de contacter. Les policiers, évidemment, ont trouvé cette adresse, ont été arrêtés le gars. Le gars, bon, il s'était ballonné. Et quand on lui dit qui c'est le responsable, bon, je connais pas son nom, mais je sais que là aussi une mesure de sécurité mal faite. J'avais, quand je me promenais en ville, j'avais mon insigne de mon club de rugby. Donc je sais qu'il s'appelle Marco, c'est mon nom d'hier, et je sais qu'il joue au rugby au football club de Grenoble et qu'il doit habiter dans tel quartier. Bon, les flics, évidemment, ils ont remonté facilement. Et c'était, disons, la police de Grenoble avait cédé l'affaire à la brigade antiterroriste qui était casernée normalement à Annecy. Il était venu donc à Grenoble à cette époque-là. Et c'est eux qui m'ont arrêté, donc ils sont venus me chercher à l'usine où je travaillais, Ils m'ont raté.
C'était le 23 août.
Alors, 25 août. 23, c'est l'arrestation des deux là, des deux premiers. Moi, j'étais arrêté deux jours après.
Donc, on n'avait jamais été clandestin, en fait, quoi. Vous avez,
On n'était pas réfractaires du tout, hein. On avait 19.
Le STO, il était en place à l'époque. On n'avait pas été sollicité.
Ah non, parce que le STO s'est arrêté à la classe 22. Moi, j'étais de la classe 24. Donc, j'avais rien à voir avec le STO. Hein. J'étais pas réfractaire. D'ailleurs, quand les gars ont été arrêtés, moi, j'ai contacté évidemment mon responsable qui m'a dit, tu prends le maquis. Il y avait possibilité de prendre le maquis. J'ai dit non, j'ai dit, les deux gars qui ont été arrêtés, je les connais, ils joueront bien avec moi, ils parleront pas. Mais ce que je savais, c'est pas c'est cette histoire-là. Et si j'avais su cette histoire-là, je partais au maquis. Hein, c'était facile. Bon, voilà, donc j'étais arrêté. Donc on était arrêtés tous les trois. Et on se retrouve en prison à Grenoble, la prison qui n'existe plus actuellement, prison Saint-Joseph, on se retrouve tous les trois. On se retrouve plutôt à cinq, parce qu'il y en a deux autres qui ont été arrêtés après. Deux jeunes, mais qui ont été libérés rapidement parce qu'ils avaient 16 ans. Donc ils ont été libérés. Mais nous, ils nous ont gardés, parce qu'on avait 18 ans, ils nous ont gardés. Alors on se retrouve en prison à Grenoble, et on passe au tribunal.
Alors, des interrogatoires, la maltraitance?
Non, absolument rien. Les flics nous ont arrêtés, la brigade spéciale nous ont arrêtés, ils nous ont interrogés, on leur a raconté des conneries, hein, des tas de mensonges, on leur a raconté n'importe quoi. Ils n'ont pas cherché à savoir. Même pas une gifle. Alors, ça, je pense pour deux raisons. Parce que je vous ai dit, mon père était rentré dans la police. Mais il avait été viré par Pétain.
Ah oui.
Et bon, comme il était militant socialiste, il était viré par Pétain.
Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a vécu après?
Il travaillait. Comme il n'avait pas de métier, il était garantier de métier, si vous voulez. Après, il est rentré dans la police, bon, il n'avait pas de métier. Il a été faire le manœuvre dans une entreprise, hein, c'est tout. Hein. Bon, enfin.
Viré très tôt, tout de suite.
En 40, fin 40 à peu près, bon, quand ils ont commencé à épurer la. Déjà, bon, lui, Mais il avait quand même gardé des contacts, hein, parce que c'était la police municipale, c'était pas du tout la police comme actuellement. Donc il avait gardé un contact, et quand j'ai été arrêté, il y a un ex-copain qui a été l'avertir, ton fils est arrêté, et me voir en prison, etc., au poste de police, mon prison au poste de police. Et puis donc, après, on est rentré en prison à Saint-Joseph. On est resté 2 mois et demi en prison à Saint-Joseph, et puis on est passé devant un tribunal. Alors, comme dans notre dossier, il n'y avait absolument rien, comme d'autre part, un des camarades qui avait été arrêté était d'une famille assez bourgeoise, ils avaient un peu de la monnaie, ils avaient pris un bon avocat, un des meilleurs du barreau de Grenoble de cette époque-là, on était bien défendu, on était relaxé. Tribunal, bon, pratiquement, ils ont même, le président du tribunal, il a fait une grande plaidoirie, ses enfants qui ont cru être grands par leurs actes, etc., etc. Bon, relaxé. Mais, le préfet de l'époque, qui était pas content du jugement, il a lancé contre nous un mandat d'internement administratif. Si bien qu'on n'est jamais sorti de prison, si on est sorti de prison, on n'a jamais été libéré de prison, on nous a fait sortir de prison avec les menottes dans un train et nous sommes partis en direction d'un centre d'internement administratif. Alors le premier, Saint-Paul-des-Joux. Alors Saint-Paul-des-Joux, c'était un petit centre d'internement administratif qui se trouvait pas loin de Vienne, pas loin de Limoges, dans la Haute-Vienne, en pleine forêt. Et il y avait comme Guingouin qui était pas bien loin. Bon, finalement, au bout de 3 semaines, il y a les autorités qui ont pris une décision, transférer le centre de Saint-Paul-des-Joux dans un autre centre, à Saint-Sulpice-la-Pointe, qui se trouve dans la banlieue, enfin, entre Toulouse et Albi. Alors là, c'était un grand centre d'internement administratif, on était à peu près à mi-été. Mais bon, c'était relativement tranquille. Hein. On était privés de liberté, mais il y avait, à part la privation de liberté, on était nourris comme les Français de cette époque, c'est-à-dire très mal, mais enfin on était nourris. On faisait rien toute la journée. Alors comme on était une bonne équipe de jeunes, le matin on faisait de la culture physique, et l'après-midi on suivait des cours. Les anciens du Quin, il y avait tout dans ce camp-là, il y avait des artistes peintres, des professeurs, des instituteurs, etc. Ils avaient organisé une espèce d'école intérieure. Alors on suivait des cours de philosophie, on suivait des cours de n'importe quoi. Il y a des gens qui ont appris à écrire et à lire dans ces camps. Hein. Bon, non, c'était...
Tous les gens qui étaient là pour des motifs liés à la résistance, non, ou à l'opposition à Vichy,
non, même pas. Non, la grosse majorité, oui. Il y avait une bonne partie qui était des communistes qui avaient été arrêtés en 1940. C'est une bonne partie. Des anciens du camp. Et puis il y avait des gens qui avaient fait du marché noir. Il y avait des gens qui avaient essayé de passer en Espagne, et puis il y avait des résistants comme nous, quoi. Hein. Donc, ça s'est passé jusqu'en juillet 44. En juillet 44, un beau jour, on a eu la surprise de voir que les gardes, les gendarmes qui entouraient le camp, c'est les gendarmes qui nous gardaient, avaient été remplacés par des Allemands. Et puis, il y a des autorités allemandes qui sont rentrées dans le camp, qui ont été parlées avec les cadres du camp, enfin les cadres, pas les cadres internes, les cadres responsables du camp, et finalement, appellent. Alors, ils font l'appel et ils nous disent, bon, dans une heure, tout le monde est ici avec vous les bagages sur la place d'appel. Il y avait une grande place sur la place d'appel. Alors, effectivement, une heure après, on était là et les Allemands encadraient, nous ont fait partir. On a traversé le village, on est arrivé à la gare. Il y avait un train de marchandises qui nous attendait. Ils nous ont fait monter dans ces wagons, à 100 par wagon, et le train est parti. Et 8 jours après, on s'est retrouvés au camp de Buchenwald. Voilà. Alors évidemment, là, changement de lieu, changement de méthode, changement de beaucoup de choses.
Oui, ça s'est fait, vous n'avez même pas vu arriver le coup.
Non, non,
combien de temps?
Disons que dans ce cas-là, enfin, ce qu'il faut dire, si vous voulez, c'est que dans les prisons et dans les camps, j'ai toujours été organisé. J'ai toujours suivi la filière. Hein. Bon, quand en début 43, quand j'étais dans la résistance, j'ai adhéré au jeunesse communiste. Hein. J'étais pas communiste, mais j'ai adhéré au jeunesse communiste. Et puis après, bon, en prison, on était organisé. Dans les camps, dans les camps en France, on était organisé. Donc, on attendait d'être libéré par le maquis dans le camp. Ouais.
Et vous n'avez pas eu des velléités de mutinerie dans le centre, c'était pas possible?
Si, ça aurait été possible, mais si vous voulez, l'organisation nous avait dit, bon, pas d'évasion individuelle. Parce que je vais vous raconter une chose, c'est qu'on était une bande de jeunes, on était donc organisés dans le camp, et c'était nous un petit peu qu'on faisait les choses, bouger les choses dans le camp. Et moi, ça m'est arrivé de couper les barbelés, de faire sortir un gars du camp de Saint-Sulpice, puis de rester à l'intérieur. Alors que j'aurais pu partir. Hein. Mais bon, la consigne, c'était pas d'évasion individuelle, sauf les gens qui sont en mission. Donc, c'était un gars qui était missionné pour aller faire quelque chose à l'extérieur, je ne sais pas quoi. Mais donc, à part ça, bon, évasion collective. Alors, ils avaient fait un tunnel dans le camp où on devait partir à 200 dans ce tunnel. Puis malheureusement, le tunnel a été découvert avant qu'on puisse le finir. Bon, ben bref. Et ensuite, on nous avait dit, le maquis va venir nous chercher. Puis le maquis n'est jamais venu. Et c'est les Allemands qui sont arrivés. Voilà. Donc c'est passé comme ça, quoi. Et donc on s'est retrouvés au camp de Buchenwald. Alors là, évidemment...
trajet pour aller jusqu'au camp, ça a été des journées sans nourriture, sans...
Ouais. Sans nourriture, non, parce que, disons, nous, comme on était organisés, ce qu'il faut dire, quand on a vu les Allemands, on a bien pensé qu'ils venaient pas là pour nous apporter le petit déjeuner au lit. Hein. Alors on a dit, bon, ça y est, ils vont nous embarquer, mais on pensait pas d'aller dans un camp de concentration, parce que à notre niveau, on connaissait pas l'existence des camps de concentration. Donc, on dit, ils vont nous emmener en Allemagne pour aller travailler en Allemagne. Vous savez que l'STO existait, etc. etc. Donc, on va faire un voyage difficile. Donc, il faut s'organiser pour faire le voyage. Alors, dans le camp de Saint-Sulpice, il y avait une baraque où c'était marqué dessus « Secours national ». Bon, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Secours national. Bon, c'est l'équivalent du Secours catholique, du Secours populaire, etc. C'est une organisation caritative de cette époque-là, avec très pétiniste, et qui, disons, avait, dans cette baraque, il y avait de quoi boire, de quoi manger, etc., etc. Nous, on a dit, bon, pas de problème, il faut y emporter. On a cassé les portes de la baraque, on est rentré dans la baraque, on a pillé la baraque. Et quand on est parti dans le train, on avait tous, disons, des provisions à boire et à manger. Donc, malgré un voyage de 8 jours en plein mois de juillet, on n'a pas eu un voyage très, très, très difficile. Il y en a eu un mort dans le train. Un seul mort. Donc, parce qu'il y avait une discipline, d'abord. Vous voyez, dans le wagon, dans l'histoire du wagon de marchandises, le problème est le suivant, c'est qu'il y a peu d'air dans ce wagon. Hein. Il y a une seule ouverture, avec des barreaux, évidemment, et les gens qui sont vers l'ouverture respirent bien, mais ceux qui sont à l'opposé respirent mal. Bon, nous, comme on était disciplinés, on faisait une rotation à l'intérieur du wagon, ce qui fait que tout le monde, à un moment donné, respirait. Donc, on limitait les dégâts comme ça. D'autre part, bon, le gros problème, c'était la tinette qu'il y avait au milieu du wagon, où tout le monde faisait ses besoins dedans. Bon, c'était dégueulasse, quoi. Mais enfin, on s'arrangeait comme ça. Et finalement, donc, le voyage a été difficile, parce qu'on ne pouvait pas se coucher, etc. Mais on n'a pas souffert de la soif ni de la faim. Finalement, quand on est arrivé à Bougainville, on avait encore du ravitaillement.
Ça n'a pas été le cas de tous les convois.
Ça n'a pas été tout le convoi. Par exemple, il y a un autre convoi qui est parti. Nous, on est parti, vous voyez, de Toulouse, si vous voulez, pour remonter jusqu'à là. Il y a un convoi qui est parti de Compiègne pour aller à Dachau, qui est plus près de la frontière que Bougainville. Ben, il y a eu 800 morts dans le wagon. Parce que d'abord, il y avait des wagons métalliques. Donc là, wagon métallique, ça ne se passait rien du tout. Et puis, d'autre part, parce que les gens n'avaient rien du tout. Voilà. Alors, bon, on arrivait à Bougainville.
Alors, là-bas, vous êtes tout de suite trié, orienté.
Ça se passe un petit peu. Enfin, c'est un peu la méthode, disons, nazie. Hein. Bon, les choses sont carrées, il n'y a pas moyen de déroger aux choses. Alors, on est arrivé de nuit. On est arrivé, d'abord, le train est arrivé en gare de Weimar. Alors, on avait des gars qui regardaient à la fenêtre, je veux dire, il y avait une fenêtre. Bon, il y a un gars qui a dit, bon, on est à Weimar. Bon, Weimar, ça, pour les gars qui avaient un peu suivi les choses, c'était un peu, ça rappelait un certain nombre de choses. Ça rappelait la République de Weimar, ça rappelait Goethe, Schiller, enfin, ces gars-là, tout ça. Mais bon, à part ça, bon, rien du tout. Et puis, après, le train est parti, et puis on a monté une colline, et on voyait des bois, puis le train s'est arrêté. Tout noir, rien du tout, le train s'est arrêté. Et puis on a entendu des gens qui criaient de loin, des chiens qui aboyaient, et puis bon, des lampes qui approchaient, et puis bon, les portes des wagons sont ouvertes. Et puis finalement, la porte de notre wagon s'est ouverte, et on a vu, sur le ballast, il y avait des soldats. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de quai. Hein. Le quai, il a été fait après. Alors, sur le ballast, il y avait des soldats. Puis, bon, ils criaient. Bon, en allemand, personne... on ne comprenait pas. Alors, finalement, il y a un gars qui devait être un Alsacien qui a dit, on nous dit de descendre. Alors, bon, on saute du wagon sur le ballast. Alors, quand on a 20 ans, ça ne pose pas de problème. Mais quand on a 50 ans, ça pose un problème. Alors, il y avait des gars qui tombaient, ben, les chiens qui se précipitaient, les soldats qui tapaient avec des triques, etc. On a dit, dans le chien, quel pays sauvage on est, là, qu'est-ce que c'est? Et puis, on nous a fait mettre encore une par cinq, et puis partir. On arrivait à un bâtiment, là, avec une inscription qui marquait dessus. Alors, bon, ça me disait rien, à cette époque-là. J'ai su après ce que ça voulait dire, mais à cette époque-là, ça me disait rien. Bon, ça voulait dire à chacun son dû. C'est bon. Alors ça, c'est, comme je dis toujours, c'est l'humour noir, comme leur vêtement des SS. Dans chacun, il y avait des trucs comme ça. Bon, le travail rend libre, à chacun son dû, des conneries comme ça. Bon, enfin, on rentre dans le camp, puis on fait marcher encore pour 100 mètres, puis on nous arrête devant une baraque. En bois, c'était nuit, on ne voyait pas grand-chose. Alors on nous dit, bon, ben, vous attendez que les portes s'ouvrent. Bon. On s'assoit sur nos valises, nos sacs, parce qu'on avait tout en bordel. Et puis on attend. Puis, bon, quand le jour se lève, on voit des baraques et on voit des gars bien en bannière. Alors là, on s'est posé la question, on a dit, qu'est-ce que c'est que ça? On est dans un bagne ici. Et puis des gens qui nous adressaient la parole de loin, qui s'approchait pas trop, mais de loin, qui nous parlait, mais dans des langues qu'on ne comprenait pas. Puis finalement, il y a un gars qui parlait en français, qui dit, vous êtes français, oui, on est français. Où c'est qu'on est? Ben, vous êtes dans le camp de concentration de Bougainville. On va tout vous prendre, alors si vous avez encore du ravitaillement, du tabac, tout ça, laissez-le par terre, et on viendra le chercher quand vous serez parti. C'est ce qu'on a fait, d'ailleurs. Et puis on est rentré dans la baraque s'est ouverte, on est rentré, bon, dans une grande pièce, il y avait des tables, derrière les tables, il y avait des gars en bannière qui étaient là, et on passait, ils nous demandaient de leur donner nos montres, nos portefeuilles, tout ça, enfin, tout ça, tout ça. Et puis on se déshabillait, tout nu, on change de pièce, dans une grande pièce, il y avait des gens avec des tondeuses qui pendaient du plafond, des petits tabourets, vous asseoir et opération tonte de partout. Bon. Alors, après, il y avait un bassin, une espèce de petite piscine. Il nous a rentré dedans, il y avait un liquide qui avait été blanc dans le temps, mais qui était un peu noir. On rentrait dans ce bassin, il y avait un gars qui était là, en bannière aussi, c'est son boulot, il nous appuyait la tête pour nous faire rentrer complètement dans l'eau, là, soi-disant pour désinfecter. On continuait. Passé dans une autre pièce, là, il y avait des gars qui nous donnaient un pantalon, une chemise, une veste, un bonnet et une paire de souliers en bois. Claquettes, espèce de claquettes. Un numéro en deux exemplaires, un triangle en deux exemplaires. Et puis quand on sortait de cette pièce-là, donc il nous faisait coudre d'avoir le numéro, un sur la veste, un sur le pantalon, le triangle là aussi. Et quand on sortait de cette pièce-là, ben, on était une autre personnalité, quoi. On n'était plus un homme, on était un numéro. Et on rentrait, à ce moment-là, dans ce qu'on appelle le camp de quarantaine. Donc, on rentrait dans le camp de quarantaine. Alors, le camp de quarantaine, tous les camps de concentration étaient bâtis à peu près de la même façon. Il y avait un camp principal et un camp de quarantaine à côté. Alors, le camp de quarantaine, ça avait un but bien précis. Moi, je le vois comme ça. Quand vous arrivez au camp de concentration, vous êtes un homme ou une femme. Vous avez votre intelligence, vous avez votre instruction, vous avez vos espoirs, vos désirs, enfin vous avez tout en vous. Bon, ça n'intéresse pas du tout les SS. Les SS, eux, ils veulent des esclaves pour aller travailler. Donc on vous flanque dans le camp de quarantaine pour vous apprendre le métier d'esclave. Moi, je le vois comme ça. Alors, dans ce camp de quarantaine, c'est sale, c'est crasseux, c'est plein de puces, plein de poux, plein de punaises, plein de tout ce que vous voulez. Vous avez des grandes baraques immenses, vous êtes 1500, 1800 dans une baraque. C'est vraiment... Vous êtes entouré de gens que vous comprenez pas, parce que vous avez toutes les nationalités possibles. Vous avez des capots qui vous matraquent à longueur de journée pour vous faire avancer, pour vous faire faire des conneries, déplacer des pierres, les remettre le lendemain, etc. Vous allez chercher des pierres à la vous allez au jardin des SS pour transbaiter la merde, etc. Bon, vous faites des corvées inutiles. On vous fait des piqûres, vous savez pas pourquoi, on vous fait des piqûres. C'est vraiment le folklore. Les piqûres, si vous voulez, vous avez un bataillon de 1000 gars qui est là, un rang par 20, puis vous avez des gars qui sont baptisés infirmiers. Et ils ont des grandes seringues comme les chevaux, vous savez. Et vous passez à tour de rôle, tac, 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 et vous faites des piqûres. Quand sa seringue est vide, il va la remplir, et puis il recommence. Mais vous savez pas pourquoi c'est. Alors, moi j'en ai eu une. On a une série, en principe, de 6 piqûres. Moi j'en ai eu une, puis après je me suis débrouillé pour éviter les piqûres, parce que je savais pas bien ce que c'était. Et voilà, bon.
Que l'homme fut de grand et de sublime, sa protestation, ses chants et ses héros, au-dessus de ce corps et contre ses bourreaux. À Grenade, aujourd'hui, surgit devant le crime, et cette bouche absente et l'orca qui s'est tue, emplissant tout à coup l'univers de silence. Contre les violents, tourne la violence, Dieu le fracasse fait, un poète qu'on tue. Un jour viendra couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront. Un jour, comme un oiseau, sur la plus haute branche. Ah, je désespérais de mes frères sauvages. Je voyais l'avenir à genoux, la bête triomphante et la pierre sur nous, et le feu des soldats portés sur nos rivages. Quoi toujours ce serait, par atroce marché, un partage incessant que se font de la terre entre ces assassins que craignent les panthères et dont tremble un poignard quand leur main l'a touché. Un jour pourtant, un jour viendra couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues. Les gens s'aimeront un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Quoi toujours ce serait, la guerre, la querelle, des manières de roi, des fronts prosternés, et l'enfant de la femme inutilement né, les plaies déchiquetées, toujours des sauterelles, quoi les bagnes toujours, et la chair sous la roue, le massacre toujours justifié d'idoles, aux cadavres jetés, ce manteau de paroles, le paillon pour la bouche et pour la main le clou. un jour pourtant, un jour viendra couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront. Comme un oiseau sur la plus haute branche.
Ainsi se termine cette première émission d'une série de deux consacrée à Maurice Luya. Vous avez pu entendre successivement les illustrations musicales suivantes. Différents extraits du Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen, interprétés là par Michel Béroff au piano, Erich Grünberg au violon, Gervaise de Peyer à la clarinette et William Pliss au violoncelle. Olivier Messiaen a écrit cette œuvre au cours de sa déportation en Silésie en 1940 au camp de Görlitz. À la fin de cette émission, vous avez également pu entendre le texte de Louis Aragon mis en musique par Jean Ferrat dans l'interprétation de Francesca Solville, Un jour, un jour. Nous avions rencontré Maurice Luya le 12 juin 2009 pour réaliser l'entretien objet de ces émissions. Depuis, Maurice Luya est décédé récemment le 14 mai 2014 et c'est pour lui rendre hommage que nous vous proposons la rediffusion des deux émissions réalisées en 2009 à partir de cet entretien. Bonsoir. Thank you.